C'est important. Chaque année, de nous renaître dans l'axe de notre vocation. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Faut pas l'oublier. Et la grâce chrétienne n'a pas d'autre sens. Nécessité de la foi, c'est notre sainteté. ça implique de lutte et de difficulté. La nécessité de l'espérance et de la charité, c'est en vue de la sainteté. Père Brieux, il y a une place. sa villa. Il y a quand même une petite différence d'âge assez nette. De 1556 à 1563, donc de 14 ans à 19 ans, il reçoit l'enseignement des jésuites de Médina de Campo, tout en travaillant à l'hôpital de Médina. Il est pauvre, c'est bien. Oui, ça me fait penser tout à fait à ces Espagnols que j'avais à Fribourg, qui étaient pauvres et qui venaient à l'université au moment de 68. C'était assez agité. Il y avait toute une propagande pour faire sauter un peu la faculté de philosophie. C'était assez net. Alors il y avait quelques Espagnols, je leur demandais si je faisais partie de ce groupe. Alors ils m'ont simplement répondu, nous sommes trop pauvres pour faire partie de ces contestataires. J'ai beaucoup aimé. Parce que la nuit, nous travaillons à l'hôpital. Et le jour, nous suivons les cours. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'était assez bien. C'était par amour de la vérité, par amour aussi d'entrer dans la philosophie. Puis, si Dieu le permettait, de devenir prêtre. 1563, il entre noviciat des Carmes, toujours à Médina. Et il prend le nom de Jean de Saint-Mathias. En août de la même année, Sainte Thérèse a quitté le couvent de l'Incarnation et a fondé avec quatre autres religieuses le monastère de Saint-Joseph d'Avila. Le parallélisme avec Thérèse. Donc il entre au noviciat pendant que Thérèse fonde le monastère de Saint-Joseph d'Avila, donc la réforme. De 1564 à 1568, frère Jean de Saint-Mathias fait ses études à Salamanque, d'études thomistes à Salamanque, il ne faut pas l'oublier. De 1567, c'est l'année où saint Thomas est proclamé docteur de l'Église. Il est nommé préfet des études, charge pour laquelle on choisissait l'étudiant le plus apte. Et on continue les mêmes mœurs. Saint-Jean de la Croix était accompagné d'un père désireux de reprendre avec lui la reine. âgés à 52 ans et Saint Jean de la Croix en a 25. Vous voyez le souci de Sainte Thérèse, le souci d'achever les études de théologie. Vous savez ce qu'elle a dit une fois à propos d'un directeur de conscience? Elle a dit: plutôt qu'un saint, j'aime mieux quelqu'un qui connaît parfaitement sa théologie. On voit très bien ce que ça veut dire. Parce que le directeur de conscience est là pour laisser libre l'Esprit Saint et non pas pour imposer ses vues. Évidemment, un saint serait pauvre. Mais tant qu'on est sur la terre, on n'est pas canonisé. Alors, ça renaît quelquefois le désir d'imposer ses vues. Je crois que la direction, c'est comme celui qui va orienter, pas du tout. On est instrument du Saint-Esprit en tant que directeur. On n'a jamais imposé ses vues. On est là pour aider, faire le discernement entre ce qui est d'ordre d'imagination et de ce qui est du Saint-Esprit. Mais c'est l'âme qui doit être sous la mouvance de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui est directeur et rector. La direction spirituelle réclame une très grande pauvreté spirituel. Autrement, on accapare. C'est terrible d'accaparer. Pâché oves meas. Ce sont les brebis du Christ qu'on doit orienter et aider, et non pas nos propres brebis. Parce qu'autrement, ça fait beaucoup de mal. En octobre 1568, fondation du premier couvent des Carmes Deschaux à Duruello. Jean de Saint-Mathias, qui s'appellera désormais Jean de la Croix, y a construit de ses mains des ermitages pauvres, comme l'étable de Bethléem, dit Sainte Thérèse. Les nouveaux Carmes y sont trois, qui commence, aidé de la grâce de Dieu, à vivre selon toute la rigueur de la règle. Les très beaux entreprises se renouvellent à l'intérieur du Carmel. De 1572 à 1577, Saint Jean de la Croix est aumônier du couvent de l'Incarnation, où Sainte Thérèse a été nommée prieure en vue de le réformer. Mais l'opposition entre les Carmes mitigés et les Deschaux ne cesse de croître. Voyez bien ce que c'est que les Deschaux, Saint Jean de la Croix. Une opposition farouche, une guerre effrayante entre frères. 1577, c'est très important de voir que Saint Jean de la Croix est au milieu de toute cette lutte. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1577, les mitigés, le mot dit bien ce que c'est, les mitigés, viennent se saisir de Saint Jean de la Croix. Ils l'emmènent, les yeux bandés, au couvent des Carmes mitigés de Tolède, où il passera 9 mois dans un réduit de 6 pieds sur 10. Seulement pour le conduire au réfectoire. Là, on lui fait prendre en nourriture à terre, et chaque moine à son tour lui donne la discipline. Ou bien on lui promet le priorat s'il renonce à ses prétentions de la réforme. 9 mois sous la férule de frères jaloux. Vous voyez ce que c'est? C'est affolant. C'est dans ce réduit, devenu au cours de l'été torride, un purgatoire de chaleur et de puanteur, témoignage du frère qui le garde, que Saint Jean de la Croix, miné par la dysenterie et dévoré par la vieille, compose les 30 premières strophes du cantique spirituel, ainsi que celle de la obscur, le poème du pastoureau, et le romance In Principio, en août 1577. Dans la nuit du 15 au 16 août, alors qu'il n'a évidemment pas pu célébrer la messe le 15, la très sainte Vierge lui apparaît, toute glorieuse, et lui dit: aie patience, mon fils, car tes épreuves finiront bientôt. Tu sortiras de la prison, tu diras la messe, et tu seras consolé. Quelques jours après, à la fin du mois d'août, Saint Jean de la Croix, qui avait peu à peu desserré les vis de sa serrure, s'évade par une fenêtre dominant le fleuve. Aidé par la Vierge Marie, par un à-pic de 50 mètres, puis il se réfugie dans le monastère des Carmélites réformés. Il leur récitera et commentera les strophes encore inachevées du cantique spirituel. Il leur récite aussi dans la soirée qui suit son évasion la romance dans le principe demeuré le verbe. Il dira aux sœurs, en parlant des 9 mois passés dans le réduit, qu'une seule grâce, parmi celles que Dieu lui fit là-bas, ne se peut payer par de nombreuses années de prison. Mais à une sœur qui lui demande s'il a reçu de Dieu des consolations, il répond qu'il n'en a jamais éprouvé. Sont inspirés de Dieu, qu'il répond: merveilleuse. Alors comme ça, toute curiosité est évincée. Je crois que c'est profondément vrai. C'est l'Esprit Saint et lui. C'est une œuvre commune. Ça se voit tout de suite, du reste. C'est pas une dictée de Dieu. Mais non. C'est beaucoup plus vrai. Ça, c'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est comme ça. C'est pas charismatique, vous voyez. Il n'y a rien de charismatique dans le modèle Vive l'âme spirituelle, dans le cantique spirituel. Quand c'est charismatique, c'est dicté. Alors on est instrument. C'est beaucoup plus parfait quand c'est la grâce sanctifiante. Sous les dons du Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui sert de vous pour parler et pour donner et pour communiquer les choses les plus profondes du cœur. Et on oublie trop ça parce qu'on est sensibilisé, nous, aux charismatiques et plus sensibles. Mais les choses plus intérieures de l'âme, c'est toujours la coopération de l'Esprit Saint, nous. Et c'est ça qui est merveilleux. On sait bien que si le Saint-Esprit n'était pas là, on serait sec comme une trique dans les choses spirituelles. Mais quand le Saint-Esprit est là, alors tout prend vie. Tout prend vie. Et l'Esprit Saint renouvelle constamment, parce qu'il nous met à la source. Et c'est une eau jaillissante. Juin 1579, Saint-Jean de la Croix est recteur du collège carmélitain. Beata. C'est très beau, vous voyez ça. Il accepte d'être recteur. Hein. Beaucoup d'entre nous diraient, oh non, j'ai des grâces intérieures telles que... Non, non, moi, c'est celui qui désire être chartreux, qui accepte ça pleinement. De janvier 1582 à 1585, il est prieur du Carmel de Grenade. À la demande d'Anne de Jésus, qui est maintenant prieur à Grenade, il écrit le commentaire du cantique spirituel. Ben, n'oubliez pas qu'en 1582, année de la mort de Sainte Thérèse, donc de 1500 janvier 82, il est prieur au Carmel de Grenade. Donc à la demande de Jésus, prieur à Grenade, il écrit le commentaire du cantique spirituel qui jusque-là avait été seulement prêché à la grille du Carmel de Béas et de Grenade. C'est à Grenade aussi qu'il achève la montée du Carmel et la nuit obscure. C'est là enfin que vers 1583-1584 il compose en 15 jours Vive flamme d'amour à la demande de Doña Anna de Penarosa. Donc vous voyez, 1584 nommé vicaire provincial d'Andalousie, Saint-Jean de la Croix cesse d'être prieur de Grenade en 1585 et va pendant 4 ans cheminer à travers toute l'Espagne. C'est la fin de la période de paix au cours de laquelle il a rédigé ses grandes œuvres. Il est prieur à Ségovie. 1588. C'est là que, à notre Seigneur, qui lui demandait ce qu'il voulait, il répond, Seigneur, ce que je veux, Seigneur, ce que je veux que tu me donniez, ce sont des souffrances à supporter pour vous, et que je sois déprécié et compté pour peu de jours. Il sera exaucé, et il le sait, au moment où va s'ouvrir le chapitre général, en juin 1591. passe à une sœur de Ségovie. On me jettera dans un coin comme une vieille guenille, un vieux chiffon de cuisine. Quand vous voyez les chiffons de cuisine, n'oubliez pas de penser à Saint-Jean de la Croix. Alors, vive l'âme d'amour est écrit, vous voyez bien, à Donna Anna. La très noble et dévote dame, veuve, et qui avait perdu aussi sa fille unique, pour qui Saint Jean de la Croix écrit vive l'âme d'amour, avait accueilli chez elle, à Grenade, la mère Anne de Jésus et ses filles qui venaient à Béas pour fonder un carmel à Grenade. Les carmélites habitèrent un certain temps chez Donia Anna avant de s'installer dans le nouveau monastère. C'est tout à fait un Saint Joseph. On s'en serait très fort pour les carmélites réformés. C'est pendant ce temps Carmélite vit Donia Anna en larmes au pied de Saint Jean de la Croix. Et lui, le visage levé, disait rien, 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 jusqu'à laisser sa peau et le reste pour le Christ. Saint Jean de la Croix développe donc dans la vie flamme d'amour ce qu'il a dit de la très sainte Vierge dans la montée du Carmel, à savoir qu'elle n'eut jamais en son âme de forme imprimée d'aucune créature et jamais ne se mut par elle, mais toujours sa motion fut du Saint-Esprit. Ça c'est très beau comme vision, Saint Jean de la Croix. Vierge Marie. C'est ce que Maximilien Kolb dit. C'est ce que Saint-Louis Clément-Montfort lui-même dit. C'est ce lien si fort entre l'âme de Marie et l'Esprit Saint. Ce lien si fort qu'elle n'eut jamais en son âme se mut par elle, mais toujours sa motion fut du Saint-Esprit. De fait, c'est très vrai que Saint Jean de la Croix parle très peu de la Vierge Marie explicitement. Cependant, je crois qu'on peut dire qu'elle est toujours présente. Puisque Saint Thomas dit, quand il explique les noces de Cana mystiques, Saint Jean de la Croix a lu ça. Faut pas l'oublier. Sûrement. Parce que c'était ça qui devait aimer le mieux dans Saint Thomas. C'était son commentaire de Saint Jean. Et quand Saint Thomas dit que les noces de Cana prises d'une manière mystique, le mystice du Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire l'exigence la plus profonde de la parole de Dieu, verbum, Spirans amorem. Donc toute parole divine doit fructifier au plus intime de notre cœur pour nous apprendre à aimer. C'est ça le sens mystique. C'est la fécondité de la parole de Dieu dans notre cœur qui monte en amour. Et ça automatique les noces de Cana prises d'une façon mystique. Ce sont les noces de notre âme avec Jésus. Et il précise, c'est le mystère de l'oraison. Puisque le mystère de l'oraison, ce n'est pas autre chose que cette unité profonde de notre âme avec le Christ. Et saint Thomas ajoute, la Vierge Marie est toujours invitée. Alors vous comprenez, si vive l'âme d'amour nous montre bien cette union de l'âme avec Jésus, cette coopération étonnante dans l'unité entre l'âme et l'Esprit Saint, dans le cœur du Christ. Marie est toujours là, toujours invitée. Et saint Thomas ajoute, Marie a un rôle à jouer. Elle est consciente. L'Esprit Saint vient plus vite. C'est la hâte de Marie. Et donc elle offre notre âme à Jésus pour que Jésus puisse réaliser au plus intime de notre âme ce mystère d'unité. Oui, je crois ça très important pour nous quand on lit Saint Jean de la Croix. De comprendre qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre. L'unité de notre âme. Avec Jésus, dans l'Esprit Saint, pour la gloire du Père. C'est l'œuvre de la très sainte Trinité en nous. Et Marie est présente. Et Marie permet cela, parce qu'elle-même l'a vécu. Alors continuons, vive flamme d'amour, en comprenant bien.
Des exclamations. Oh, combien
strophe, des exclamations ô et combien qui signifient toute l'ardeur de son amour. Chaque fois qu'elle les prononce, elle donne à entendre que ses sentiments intérieurs sont beaucoup plus profonds qu'elle ne peut l'exprimer par le langage. Ça, c'est la première affirmation. Tout ce qui est dit n'est rien à côté de la réalité. Mais comme c'est important de rappeler ça, tout ce qui est dit n'est rien. La grande affirmation de saint Thomas, toute prière vocale est ordonnée à la prière intérieure. C'est bien ce que saint Jean de la Croix nous dit ici. Même quand on exprime autant qu'on le peut, d'une manière très forte, l'emprise de l'amour de Dieu sur notre cœur, les exclamations les plus limpides et les plus profondes n'expriment pas la brûlure profonde de l'amour. C'est pour ça que souvent l'amour réclame le silence. Et que l'amour s'exprime par charité pour un autre. Ça devrait être le cas de tous les prédicateurs, n'est-ce pas ? Vous savez bien ce que disait sainte Brigitte. Il ne faut jamais l'oublier. De remettre ça en bas de toutes les chairs. Si le prédicateur aimait plus, il parlerait moins. C'est merveilleux. C'est bien ça. Si le prédicateur aimait plus, il parlerait moins. Parce qu'il serait tellement pris par l'amour qu'il n'irait plus que le silence. Mais s'il peut charismatiquement parler, le cerveau sapientier, ça fait partie des charismes. Et c'est même le charisme le plus éminent. Et donc, quand saint Jean de la Croix écrit « Vive l'âme d'amour », c'est sous le charisme du cerveau sapientier. C'est pour la charité fraternelle. Et chaque fois que nous prêchons, ça doit être pour la charité fraternelle, en invoquant le Saint-Esprit de nous donner le cerveau sapientier. Le Saint-Esprit le donne normalement à tous les prédicateurs qui le demandent pour pouvoir communiquer ce qui est au plus intime de notre cœur. Parce que ce qui est au plus intime de notre cœur nous met dans le silence. Et nous aimerions mieux garder le silence. Mais l'Esprit Saint nous fait parler et nous oblige de parler. Chaque fois qu'elle le prononce, elle donne à entendre que ses sentiments intérieurs sont beaucoup plus profonds qu'elle ne peut l'exprimer par le langage. Elle emploie l'exclamation « Oh !» pour que l'on soit bien persuadé de l'intensité de ses désirs et de ses prières. C'est pour obtenir ce double effet qu'elle s'en sert dans cette strophe. Elle y exalte et y manifeste son grand désir. Et elle conjure l'amour de la détacher de la chair mortelle. L'extase. En vue de l'unité plus grande avec Jésus. Puisque l'extase, c'est la sortie de soi. Tout acte de charité est extatique. Pas d'une extase charismatique, mais d'une extase substantielle. Tout acte de charité, chaque fois que vous faites un acte de charité, sous le souffle de l'Esprit Saint. Il faut le demander, ça. C'est comme ça qu'on se réveille à la grâce divine. C'est comme ça qu'on s'éveille au Saint-Esprit. Mais si vous continuez tout simplement la bonne petite vie, en disant, Seigneur, pas trop, parce que j'ai peur d'être pris, vous n'avancez pas. Parce que tout en faisant un acte de charité, vous freinez. Et vous retournez en arrière. Cette flamme d'amour est l'esprit de son époux, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Elle le sent en elle-même comme un feu qui non seulement la consume et la transforme en un suave amour, mais qui de plus brûle en elle. Et comme je l'ai dit, lance des flammes. Cette flamme, chaque fois qu'elle jaillit, baigne de la gloire, baigne de la gloire l'âme elle-même et lui confère un rafraîchissement de vie éternelle. Telle est l'opération du Saint-Esprit dans l'âme transformée en amour. Elle produit des actes intérieurs qui jettent des flammes et sont toutes brûlantes d'amour. La volonté s'y unissant aime d'une manière très élevée parce qu'elle est transformée en amour avec cette flamme. Voilà pourquoi ces actes d'amour sont du plus haut prix. Un seul d'entre eux a plus de mérite et de valeur que tout ce qu'elle a pu faire de plus grand dans toute sa vie avant sa transformation. Alors comprenons bien cette transformation. Il faut dire, moi je suis pas l'âme transformée par la grâce, donc ça ne sert à rien. Pas du tout. Ça serait très fou. Lorsque vous voulez vraiment faire un acte de charité, plaignez. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et c'est dit ça. Et c'est dit même dès le début. Votre âme, à ce moment-là, est transformée. Vous n'êtes pas encore dans l'état de transformation, mais l'âme est transformée. Et donc vous vivez ce mystère et vous le comprenez. Vous pouvez très bien ne rien sentir du tout. C'est pas une question de sentiment. C'est une question de volonté. De volonté d'amour.